sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard. Nous sommes le 17 octobre 2022. Ouf, de l'autre côté de l'Action de grâce, du long week-end. On ne s'est pas parlé depuis une quinzaine. Ça me fait plaisir d'être de retour. Nous aurons aujourd'hui toutes sortes de sujets pertinents, intéressants. Nous allons parler de diabète et de différentes avancées scientifiques avec notre chroniqueur vulgarisateur Philippe Ducharme. Nous allons également parler du Centre Filou avec Marie-Agathe Bawamba-Kabamba, qui est gestionnaire du projet Le Centre Filou pour les adultes polyhandicapés. Le CAPVI à Québec, de ce côté-là, Simon April vient d'être nommé comme étant un des membres de la commission consultative de la Ville de Québec pour le mieux vivre ensemble. Camille Cusset, qui a fait le tour du monde une fois de plus, va nous revenir avec des nouvelles d'un peu partout. Et pour commencer, nous allons nous entretenir avec M. Benoît Racette, qui est chargé des relations avec la communauté, avec Fine Autonome, car il y avait la semaine dernière le dévoilement d'études qui sont assez frappantes sur le statut des finances et la structure, fiscale pour les personnes en situation de handicap. Tout ça à sans détour. Voilà, vendredi, il y a quelques jours, en matinée, la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour le Centre d'expertise en finance de Finautonome, qui est un organisme, on le rappelle, qui voit à promouvoir l'indépendance financière, l'autonomie des personnes en situation de handicap, révélait les plus récentes analyses sur le régime enregistré d'épargne invalidité du Québec, le REEI, et non seulement cela, mais évidemment le portrait des gens en situation de handicap au Québec, entre autres quand il est question du crédit d'impôt pour personnes handicapées. Voilà, alors pour faire le tour de la question, nous avons avec nous Benoît Racette. Bonjour Benoît, comment allez-vous?
Ça va bien. Bonjour, François.
Ça va très bien, merci. Alors, oui, j'ai assisté à la conférence vendredi matin. C'était fort intéressant. Alors, on va essayer d'amener nos auditeurs à avoir le même bagage d'informations que Raymond Chabot Grant Thornton a préparé pour Finautonome. Quels sont les constats?
Il y en a beaucoup.
Oui.
Mais je vous remercie d'abord de prendre le temps d'être venu et puis de parler de ça, parce que c'est très important. On oublie qu'au Québec, les personnes en situation de handicap sont particulièrement pauvres. Et on remarque même qu'une personne sur trois en situation de handicap a un revenu de moins de 15 000 $ par année. Ce qui se compare très désavantageusement du reste du Canada. C'est pour ça que les mesures financières qu'on utilise dans ce prémunis viennent faire la différence, et c'est dommage parce qu'en plus, au Québec, c'est ici qu'on le demande le moins.
Pourquoi est-ce que les Québécois, Québécoises en situation de handicap ne se prévalent pas des mesures qui existent à la même hauteur que les gens du reste du Canada? Qu'est-ce qui nous manque?
Ben, il manque plusieurs choses, mais dans l'étude, il y a eu deux études qui ont été menées, une sur l'impact économique, l'autre sur les comportements là, quand on veut accéder au RI, et il y a plein de choses qu'on apprend là-dedans. Évidemment, il y a deux groupes, parce qu'on sait qu'il y a 150 000 personnes qui sont admissibles qui n'ont pas recours au CIPH en ce moment. Ça, c'est la première chose à dire. 150 000 personnes, c'est beaucoup de monde. Le CIPH, c'est quoi? Ça vaut la peine d'en reparler. C'est le crédit d'impôt pour les personnes handicapées qui est au fédéral, mais il y en a un aussi au provincial qu'on appelle le montant pour déficience grave et prolongée. Donc, ces mesures-là, évidemment, les gens se disent « Ah oui, mais c'est un crédit non remboursable. Même si je fais ma demande... »
Si je ne paye pas d'impôt, ça ne me donne rien. Alors, pourquoi est-ce que je me taperais toute la procédure?
Ben, il y a deux choses quand même. Il faut dire que ça peut aller jusqu'à 1 14 $ au fédéral, puis 517 $ au provincial qu'on économise là, quand on fait nos impôts. En tout cas, quand on tire des revenus en plus, disons, de la solidarité sociale ou quand on a des revenus d'emploi. Sauf que ça donne, c'est comme un passeport important pour plein d'autres mesures au fédéral, entre autres. Puis ce qui est bon de savoir, c'est que quand on remplit le crédit d'impôt pour personnes handicapées, qu'on fait la demande, on peut l'utiliser aussi au Québec pour...
obtenir le montant pour personnes avec déficience grave et prolongée.
Exactement. Mais ce qui est le plus important encore, c'est que ça donne accès au REEI. En fait, on peut demander le REEI. Et c'est là qu'il y a un problème. Je veux juste rappeler un peu la situation. Là. Donc, on se le dit, à peu près, bon an, mal an, 1 053 000 personnes qui sont en situation de handicap au Québec. Il y en a 17% là, qui demandent un CIPH. Ça fait 184 000 et des poussières. C'est quand même pas mal de monde. Et là-dessus, il y a seulement 24 891 personnes, donc à peu près 25 000, qui demandent le REEI. Et le REEI, ce qui est dommage, c'est que c'est pas un régime enregistré comme les autres. Il est prévu quand on a une invalidité. Puis on peut même l'utiliser avant la retraite.
Oui.
On le sait à quel point les gens au Québec, parfois, ont des besoins qui changent, hein, qu'on soit une personne aînée, une personne plus jeune, peu importe le handicap. Et cet argent-là qu'on peut aller chercher de plus, qu'on met de côté pendant des années, ça pourra nous aider à payer toutes sortes de services, à nous aider à avoir une vie.
Et ce qu'il faut savoir, Benoît, et je pense que ça, c'est assez frappant pour ce qui est du régime enregistré d'épargne invalidité, c'est que le gouvernement fédéral va y verser de l'argent. Alors, donc, c'est pas que notre effort d'épargne, parce qu'on peut penser que oui, si mes revenus sont faibles, épargner, c'est pas mon premier challenge. Mon premier challenge, c'est de me loger puis de me nourrir. Mais le gouvernement verse l'argent dans le régime une fois qu'il est ouvert. Alors, en fait, de ne pas ouvrir son régime enregistré d'épargne invalidité, c'est tourner le dos essentiellement de l'argent que le gouvernement est prêt à nous donner.
Et rappelons, donc, vous le dites, vous le suggérez, là, même si on n'a pas d'argent pour cotiser, le gouvernement verse un bon de 1 000 $ annuellement pour les Canadiens à faible revenu qui ont une invalidité. Donc, ça veut dire que ça peut monter jusqu'à 20 000 qu'on met de côté pour vous, puis que vous pouvez décaisser même avant 60 ans.
C'est clair qu'il faille le faire. Est-ce qu'il y a des mythes? Pourquoi les gens sont rebutés par ça? C'est la complexité de demander le crédit?
Oui. On pourrait rentrer dans les raisons qui ont été invoquées, parce qu'évidemment, il y a eu un sondage aussi qui a été fait auprès des personnes qui demandent le CIPH, puis il y a toutes sortes de réponses, mais ce qui revient en tête de liste, c'est que les gens considèrent que, par exemple, leur incapacité est trop légère, qu'ils trouvent que les procédures sont trop compliquées, c'est à peu près à hauteur de 25% des répondants. Je savais pas que j'avais droit à 17%, mon incapacité m'empêche d'entreprendre des démarches, parce que des fois, elles sont compliquées, disons-le, mais on va démythifier une chose, là. 89% des gens qui demandent le CIPH,
l'obtiennent.
Donc le crédit d'impôt, ils l'ont.
Ah, voilà.
Et évidemment, ça prend le CIPH pour demander le REEI. C'est sûr que c'est deux étapes. D'ailleurs, il y a plein de gens qui peuvent vous aider. Les banques peuvent offrir ces services-là. Nous aussi, on a une ligne gratuite. En fait, il est possible pour les gens de nous rejoindre au 1-800-TON-REEI s'ils souhaitent avoir de l'appui dans ces démarches-là.
C'est important de le dire, c'est pas une aide qui est intéressée là, finautonome, mais c'est pas une institution financière qui en veut à votre capital. Une chose qui m'a frappé beaucoup dans le pourquoi de la faible prévalence au Québec du crédit d'impôt. Les gens ne se considèrent pas en situation d'handicap, bien qu'au sens de la loi, ils le soient. Donc, les gens au Québec, culturellement, on se considère moins facilement comme étant en situation d'handicap que dans le reste du Canada. Mais c'est absurde parce qu'on ne peut pas penser que, miraculeusement, la population québécoise est moins souvent en situation d'handicap. C'est pas vrai.
Il y a bien des gens qui seraient contents de savoir que ça prend juste le fait d'être québécois pour être moins souvent en situation d'handicap.
Mais non, mais ça, c'est autre chose. Mais sérieux, il y a comme une sous-estimation ou l'inverse. On pense que la barrière est trop haute. Or, elle est relativement raisonnable. L'autre chose, c'est que la tranche d'âge de 65 ans et plus au Québec est particulièrement sous-représentés. On dirait vraiment que les aînés au Québec ne savent pas qu'ils ont droit à ce crédit-là et conséquemment s'en privent. Et souvent, c'est à une période de la vie où le soutien financier serait bienvenu.
Tout à fait. Vous identifiez même là deux des groupes pour lesquels on a vu que c'était plus difficile l'autodéclaration là, qu'on appelle, ou le fait de se reconnaître comme personne en situation de handicap. Les Québécois qui ont des incapacités graves, mais temporaires. Pensons aux gens qui ont la COVID longue en ce moment.
Oui.
Pensons les gens qui vivent des dépressions. Pensons les gens qui sont accidentés puis qui perdent qui ont des limitations d'activité de manière temporaire. Ces gens-là, peut-être qu'ils sont souvent pas assez informés ou encore qu'ils se voient pas comme étant en situation de handicap, mais ils peuvent avoir accès.
Parce que la notion d'handicap sur une base temporaire existe. Voilà.
Exact.
Et ça, les gens s'en rendent pas compte. Oui.
Autre chose, vous parlez du diabète aujourd'hui, d'ailleurs. Vous savez que les gens qui ont le diabète type 1 peuvent certainement avoir accès au CIPH. Souvent, ils ne le savent pas. Puis c'est quand même une partie importante de la population. Mais le groupe dont vous avez parlé, qui est le plus important, parce que c'est au Québec où on a le plus d'aînés, la partie de la population qui a 65 ans et plus, c'est ici qu'elle est la plus élevée, eh bien, les aînés ne se reconnaissent pas comme personnes en situation de handicap. Tu sais, souvent, on dit, ah, c'est l'âge.
Oui, voilà, j'ai une incapacité, mais entre guillemets, c'est normal. Mais,
voilà.
mais ça m'empêche de faire mes activités, ça demeure pour moi être une incapacité, alors voilà.
Tout à fait. Donc, vous avez droit au CIPH au fédéral, au montant pour déficience grave et prolongée, au provincial. Ça, c'est super important que les gens sachent.
Qu'est-ce qui devrait être fait? Quelles sont les recommandations qu'on peut tirer de ce constat?
Écoutez, il y a quatre grands enjeux qui ont été identifiés par la firme Raymond Chabot Grant Norton. D'abord, la complexité des procédures, les lacunes dans la compréhension des bénéfices. Donc, d'un côté, on croit que ça ne donnera rien, le CIPH, le REI. Et c'est faux. Je rappelle que 89% des demandes sont acceptées. Puis des fois, c'est en deuxième tour. Hein. Faut se dire ça. Hein. Des fois, on refuse une première fois. Si on persiste ou on étaille mieux,
oui, voilà. Mais ça peut. De toute façon, 89% des demandes sont acceptées. Alors ça, c'est le premier volet, c'est d'essayer de simplifier le processus d'entrée.
Il faut le simplifier. Puis soyons. On sait aussi qu'il y a une certaine qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui ont une littératie moins grande. Aussitôt là, que les formulaires deviennent longs, c'est inquiétant. Et peu de gens, même les professionnels, parlent du REI. Donc, non seulement ils ne savent pas qu'il existe parfois, en tout cas 13% là, des gens dans ce qu'on évaluait ne savaient même pas que ça existait, le REI, par exemple, mais en plus, ils trouvent ça difficile d'y accéder, il y a beaucoup de mesures, puis pourtant, il y a de l'aide qui existe là. Et aussi, peut-être le manque d'accès des conseils de qualité, on est obligé de le remarquer.
Oui. On voyait dans l'étude, d'ailleurs, qu'il y avait une concentration des REI près des centres urbains, comme quoi, en région, les institutions financières, peut-être c'est une question de formation des intervenants dans les institutions financières, le REI est encore plus rare, pourrait-on dire, ou sous-utilisé, dès qu'on s'éloigne un peu des centres urbains. Alors ça fait partie un peu de l'information qui peut être disséminée, certes par des institutions financières ou par des groupes communautaires comme Phénotonome, mais il semble que la littératie financière, malheureusement, s'affaiblit quand on s'éloigne des centres.
Vous avez raison. En fait, le trois quarts des REI sont demandés, si je peux dire, dans les centres urbains. Donc, ça veut vraiment dire qu'il faut faire plus de travail partout au Québec. Puis c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on s'affaire à faire, nous, comme organisme.
C'est ça, si je peux me permettre, ça fait un lien avec qu'est-ce que Phénotonome. Et je pense que votre œuvre est tout à fait valable. Et en fait, toute cette étude-là démontre à quel point ce que vous faites est utile. Vous êtes un peu comme les au-devant de la parade de la littératie financière de ce côté-là.
C'est notre nouveau slogan, j'adore ça.
Voilà. Tout ce dont on a parlé, pour conclure, On peut retrouver ça sur le site de FinAutonome. FinAutonome, c'est comme F-I-N comme financier, puis autonome comme autonome. Alors, c'est finautonome.org. Et là, on peut retrouver tout le texte en format accessible, je tiens à le dire, de l'étude de Raymond Chabot sur le REI, puis l'utilisation du crédit d'impôt pour personnes en situation d'handicap. Et on peut obtenir une aide plus personnalisée par le biais de vos services. Voilà.
Tout à fait, en appelant le 1-833-TON-REI, donc le 1-833-866-7334.
1-833-866-7334.
Oui. Exact.
Parfait. Ben, merci beaucoup, Benoît Rassette. C'est tout le temps dont on dispose aujourd'hui. J'espère que des gens se sont reconnus et pourront prendre une partie de leur situation financière en main de cette façon. Merci.
Avec plaisir. Bonne journée.
De retour, je suis en compagnie du docteur, on va dire docteur Philippe Ducharme. Philippe Ducharme, je pense que vous avez un doctorat à l'UQAM.
Ben absolument.
Alors, vous êtes docteur au Québec. On dit docteur seulement pour les gens qui sont médecins, mais pas mal partout dans le reste du monde, quand quelqu'un a un doctorat, on l'appelle docteur. Alors, M. Voilà. Philippe Ducharme, voilà, vulgarisateur scientifique extraordinaire. Aujourd'hui, Philippe, nous allons parler de diabète surtout.
Absolument. Donc, je veux donc vous parler de certaines nouveautés par rapport à cette maladie-là. Je commencerai d'abord en disant, ben le sucre, hein, le sucre, c'est quand même un élément indispensable là, pour tout organisme être vivant que nous sommes. Quand on s'alimente, bien notre système digestif va agir en quelque sorte comme un robot culinaire. Donc, son rôle, c'est de décomposer la nourriture, la dégrader. Puis faire en sorte qu'on puisse l'assimiler. Le sucre.
Ceux qui ont des enfants en très bas âge savent exactement de quoi il s'agit. On a l'impression que les petits-enfants, là, les poupons, c'est vraiment comme des robots culinaires. Là. Voilà.
Et voilà. Alors, le sucre va finalement se retrouver dans le sang. Et pour certaines personnes, donc les gens qui souffrent de diabète, ben, le problème, c'est au niveau de la régulation de cette quantité de sucre-là, donc la concentration de sucre. On a des hormones qui nous permettent de faire entrer le sucre du sang dans les cellules, donc c'est l'insuline. Et parfois, ben, on a besoin de faire sortir du sucre des cellules, et pour ça, bien, il y a le glucagon. Okay. Ces deux hormones-là, ça agit dans le fond dans un métabolisme qu'on appelle le métabolisme du sucre. Et c'est pour ça qu'on dit que le diabète, c'est une maladie liée au une maladie métabolique, en fait.
C'est que ces deux vecteurs-là, l'insuline et l'autre, qui s'appelle le
glucagon.
Parce qu'on entend souvent le mot insuline quand on pense à diabète, ouais. Mais le glutagon, j'avoue que moi, c'est la première fois que je fais sa rencontre. Là.
Bon, ben, là, une nouvelle chose pour vous ce matin.
Voilà.
Donc, ce qui est dommage, évidemment, avec le diabète, c'est que ça a plusieurs autres impacts.
Oui.
Et notamment,
la cécité.
Des quantités trop élevées de sucre dans le sang peuvent amener des dommages au niveau des yeux.
Oui.
Essentiellement, ça va conduire à la destruction de petits vaisseaux sanguins qu'on retrouve sur la rétine, donc la membrane qui tapisse le fond de l'œil. Ça va créer des petites hémorragies. Ce que ça aura comme conséquence, ben, ça va entraîner une perte de vision, une vision floue, des taches. Ça peut même aller jusqu'à la cécité, là, évidemment, si c'est pas très
exact. Bien. Tout à fait. Et de ce côté-là, il y a un peu d'espoir, semble-t-il,
voilà.
qui nous vient de par chez nous, là, du centre de recherche de l'hôpital Rosemont.
Voilà. Donc, un chercheur, en fait, une équipe de recherche dirigée par Mike Sapia, donc un chercheur qui œuvre à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, effectivement, ben, ils ont découvert un rôle insoupçonné d'un type de globule blanc, en particulier les globules blancs, ça circule dans le sang, bien entendu. Donc, ce type-là, ce sont des neutrophiles. Donc, les neutrophiles ont pour rôle, eux autres, là, normalement, de piéger, de contrôler les micro-organismes qui se déplacent dans notre système.
Oui. Les globules blancs, c'est ça, c'est eux qui soignent. Ouais. C'est comme notre première ligne de défense contre les maladies.
Exactement. Voilà. Donc, ce qui est quand même surprenant de tout ça, c'est que les globules blancs, les neutrophiles, il semble qu'ils ciblent également les vaisseaux sanguins qui sont endommagés au niveau de la rétine. Donc, dans l'idée qu'une personne diabétique peut justement présenter des dommages au niveau des vaisseaux sanguins de la rétine. Ces vaisseaux-là, dans le fond, ils envoient comme des petits signaux. Ça permet d'attirer des neutrophiles. Puis ce qu'ils vont faire, eux autres, c'est qu'ils vont neutraliser ces vaisseaux-là endommagés. Bref, ils vont faire en sorte de faire un peu de nettoyage et permettre finalement à ce que de nouveaux vaisseaux sanguins puissent être régénérés finalement.
Alors, il y a quelque chose, il y a comme une piste de solution pour la rétinopathie diabétique.
Ça va probablement en apporter. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça permet de mieux comprendre comment on peut, comment les neutrophiles fonctionnent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement au niveau en lien avec le diabète.
Ben, c'est en sachant comment ça fonctionne, ça aide un peu aussi. Ça donne espoir qu'on puisse trouver des manières de réparer le système. Et une de ces façons-là, ce serait d'utiliser de minuscules particules, ce qu'on appelle la nanotechnologie.
Voilà. Et c'est une nouvelle, je pense, qui va intéresser particulièrement les gens qui souffrent de diabète de type 1. Parce que ces gens-là, en fait, ce qui arrive, c'est que le problème se situe au niveau des cellules qui ne sont plus capables de produire. En fait, les cellules qui produisent de l'insuline sont détruites. Sont détruites par le système immunitaire. Il réagit mal, puis il détruit les cellules qui produisent l'insuline. Donc, c'est pour ça que ces gens-là doivent s'injecter de l'insuline.
Régulièrement, parce qu'ils n'en produisent pas suffisamment eux-mêmes.
Voilà. Il y a aussi une autre alternative qui est de transplanter les cellules qui produisent de l'insuline. Donc, par exemple, des greffes d'îlots de cellules de Langerhans. Ça, c'est le nom qu'on donne à ces cellules-là.
D'accord.
Le problème avec les transplantations, je pense que tout le monde le sait, c'est le risque de rejet.
Le rejet, le corps réagit tout de suite à un élément étranger, là.
Et voilà. Et c'est pour ça qu'on va donc administrer aux gens des médicaments immunosuppresseurs qui vont justement atténuer ou réduire ce risque de rejet. Mais les immunosuppresseurs, ça vient avec des effets secondaires.
Les immunosuppresseurs, ça ratisse large. Alors, si ça calme un peu le jeu pour éviter que le corps rejette greffe de cellules productrices d'insuline, la corollaire à ça, c'est qu'on a de la misère à combattre toutes sortes d'autres empoisonnements biologiques, si je peux dire.
Exactement, des infections de tout genre. Donc, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'il y a des chercheurs américains de l'Université de Northwestern qui ont eu l'idée de prendre le médicament immunosuppresseur, je ne l'ai pas nommé, mais c'est la rapamycine.
La rapamycine, donc, oui, ça fait... oui, ça... On se souvient de ce nom-là, oui, la rapamycine, oui.
Rapamycine, exactement. Donc, ils l'ont intégré dans ce qu'on appelle des nanoparticules. Donc, ce que ça peut avoir l'air, là, si je mets une image là-dessus, c'est imaginer des petites bulles de savon. Ce n'est pas fait avec du savon, mais imaginons qu'on voit les petites bulles. Mais ça, ces petites bulles-là sont c'est des sphères, en fait, là. Elles sont jusqu'à 1000 fois plus petites que le diamètre d'un cheveu.
Alors, elles sont invisibles à l'œil nu, ça, c'est clair. Voilà. Mais c'est un peu comme les bulles dans une eau gazeuse, mais encore plus petites.
Bel exemple. Donc, en laboratoire, ils ont utilisé des souris qui sont des modèles pour étudier le diabète. Et ils ont injecté ces nanoparticules-là qui contiennent la rapamycine. Et ce qu'ils ont observé, c'est que le mode... ce que ça déclenche comme réaction, c'est que ça ne va pas aller justement stimuler le système immunitaire de la même manière. Ah. En fait, ça va plutôt s'attaquer à d'autres choses, à d'autres cellules qui ont plus ou moins d'impact à ce moment-là. Mais l'intérêt de ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut donc faire une transplantation qui fonctionne sans avoir les effets secondaires qui sont habituellement associés aux médicaments immunosuppresseurs.
Alors, si je comprends bien, la nanoparticule qui en fait contient une microdose de rapamycine.
Ouais.
Et cette micro-dose de rapamycine va cibler plus particulièrement le site de la greffe?
Ben, c'est-à-dire qu'il va donc évidemment agir au niveau de la greffe, c'est-à-dire pour éviter que le système s'entraîne à la greffe, mais il va le faire avec un mécanisme physiologique différent. C'est ça qui est intéressant.
Ah,
ça, ben, ça fait en sorte que finalement, la souris, dans ce cas-ci, conserve un très bon système immunitaire en général, peut très bien se défendre contre des pathogènes, mais ne subit pas les effets secondaires.
Elle ne rejette pas la greffe.
Non plus, exactement. La greffe est bien implantée, ça fonctionne.
Ça peut avoir toutes sortes d'applications pour d'autres situations de greffe aussi, pas juste...
Probablement.
Ben oui, on peut penser à ça.
Ce qui est certain pour ça, ben, c'est qu'il va falloir le valider chez des tests.
Oui, tout à fait. Les souris, on les remercie beaucoup.
Oui.
C'est important de le souligner, là, parce que c'est quand même des petites bêtes qui sont sacrifiées, si je peux dire, pour l'humanité. Là.
Prend bien soin en laboratoire.
Oui, ben on est mieux... Voilà. Et toujours en parlant de diabète, maintenant, on va parler du diabète de type 2, parce qu'il y a un nouveau médicament là, qui pointe à l'horizon.
Exactement. Donc, un petit rappel, le diabète de type 2, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est les cellules qui sont plus capables d'incorporer le sucre. Donc, on parlait tantôt de le sucre doit entrer dans les cellules. Ben là, le problème, c'est que les cellules ne sont plus capables de l'incorporer. Donc, la quantité de sucre augmente dans le sang. Et ça crée des problèmes. Donc, les gens vont souffrir de
diabète. Le diabète de type 2, ça survient plus souvent à l'âge adulte, quand il y a comme une sorte d'usure du système, si je peux dire.
Oui, c'est ça. Progressivement, les cellules deviennent de plus en plus insensibles à l'insuline, donc l'hormone qui permet d'intégrer le sucre dans les cellules. Donc, c'est un peu ça qui arrive. Donc, on a ce problème-là. Il existe déjà des médicaments là, pour essayer de contrôler les conséquences liées à ça, mais des chercheurs français ont identifié un nouveau médicament.
Oui, des gens de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Et voilà.
Voilà.
Donc, le médicament en question, on le nomme le TAPA, ou TAPAS, là, dépendamment,
Patas.
Il y a un S.
Okay. P-A-T-A-S.
Oui, voilà, exactement. Ce qui est intéressant de ce médicament-là, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le médicament va plutôt agir à la source du problème. C'est-à-dire, quand je parlais tantôt des cellules qui ne sont pas capables d'incorporer le glucose, bien, le médicament va justement essayer de redonner cette capacité-là aux cellules, à certaines cellules, là, les cellules qu'on dit des cellules adipeuses. Ce sont des cellules qui, normalement, vont stocker les graisses.
D'accord.
Mais chez les personnes diabétiques, puis comme tout le monde, en fait, là, les cellules adipeuses vont également intégrer normalement le sucre.
Oui, parce que les gras sont transformés en sucre, tout à fait.
Il y a des réactions là, qui vont se produire entre les deux. Mais l'idée qu'il faut retenir, donc, c'est que le TAPAS agit à la source et permet donc aux cellules de retrouver une capacité d'intégrer le sucre du sang vers l'intérieur de la cellule autrement.
Merci beaucoup, Philippe Ducharme. On a hâte d'entendre d'autres bonnes nouvelles. Vous êtes un chroniqueur de bonnes nouvelles, finalement, parce que c'est précieux, ça. On se retourne, on se reparle après la pause dans quelques minutes.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour, le Centre Filou est une œuvre qui existe déjà depuis près d'une vingtaine d'années. On va en parler tout à l'heure, mais on parle surtout dans le contexte de la problématique des personnes polyhandicapées, surtout au moment où elles atteignent l'âge adulte. Et pour en parler, quelqu'un du Centre Filou, Mme Marie-Agathe Bamouamba-Kabamba, va nous parler un peu du projet de créer un centre pour les adultes, parce qu'on a toujours associé le Centre Filou aux enfants, n'est-ce pas, madame? Et cette fois-ci, on veut élargir. Quel est votre projet?
Le Centre Filou, on veut créer un milieu de vie pour les adultes polyhandicapés.
D'accord.
Parce qu'on se rend compte que, bien évidemment, arrivé à l'âge adulte, il n'y a pas de possibilité. Les parents, le seul choix d'endroit pour leur enfant, c'est CHSLD. Ce n'est pas un milieu de vie qui est adapté pour un adulte de 29 ans.
C'est ça, oui. On a vu le drame après ça, que ça peut être d'essayer de sortir les gens du CHSLD et de leur offrir une vie autonome dans un milieu, je dirais, plus convivial. Moins institutionnalisé. Et en fait, ça fait presque peur de dire « Ah, mon enfant est destiné au CHSLD, bien qu'il soit encore relativement jeune. »
Oui, c'est exactement ce que plusieurs de nos parents vivent parce qu'ils sont déchirés à l'idée de devoir mettre leur enfant dans un milieu qui n'est pas adapté pour eux, mais qu'ils n'ont plus le choix parce qu'eux se retrouvent fatigués, épuisés après avoir pris soin de leur enfant pendant 30 ans, puis qu'ils veulent le mettre dans un endroit où on ne va pas prendre soin de lui, mais ils n'ont pas de réponse. Donc, on veut leur offrir cette réponse-là parce que sinon, ils se retrouvent impuissants face à ça.
Alors, le Centre Philo est une œuvre, je dirais, c'est pas gouvernemental, c'est comme beaucoup d'autres, c'est un organisme à but non lucratif. C'est un organisme communautaire. En ce moment, quel est votre rayon d'action? De combien d'enfants est-ce que vous prenez soin?
Sans filer, c'est plus de 200 familles dont on prend soin. On a un service de garderie, un service de répit. On a aussi le service d'école pour ceux de 21 à 29 ans. Donc, on grandit nos services de plus en plus.
Et l'histoire, si je peux dire, du Centre Philo, en fait, ça part de deux parents.
Exactement. Ça part des parents de Philo, donc Mme Diane Schelver et M. Philippe Brosseau.
Qui, en fait, Philou, c'est leur garçon, Philippe. Hein, je pense que c'est comme un surnom affectueux. Philippe, qui est atteint d'une paralysie cérébrale sévère. Puis, et c'est un peu comme ça, dépourvu de moyens pour soutenir la famille. Rencontrant d'autres parents qui avaient la même situation, la même problématique, ils se sont dit, ben on va essayer de faire quelque chose. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez quoi, 220 familles, vous dites, qui sont soutenues de cette manière-là. Mais encore une fois, on parle d'enfants et le drame arrive donc au moment de la majorité, au moment de l'âge adulte. Sous quelle forme va prendre votre projet? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce qui peut être fait? Combien ça coûte? Ou ainsi de suite.
Nous, on veut un habitat, donc on veut un lieu d'hébergement, une maison pour eux. Donc, ça, on veut que ce soit, on veut trois aspects à ça. On veut D'accord. un hébergement permanent, donc on veut pouvoir que certaines personnes puissent y vivre, que ce soit leur maison tout le temps. Ensuite de ça, on veut un aspect transitoire, parce que justement, c'est déchirant pour les parents de placer leurs jeunes. Donc, oui. on va leur faire une option d'avoir une cassure qui ne soit pas aussi abrupte, donc de pouvoir le faire de manière lente. Donc, ce serait une semaine à la maison, une semaine à l'habitat. Puis, on va ouvrir un centre de jour. Fait que des activités de jour pour les enfants, comme à l'école. Ils reviendraient le matin et rentreraient chez eux le soir. Donc, ce serait ça les trois aspects de l'habitat.
Donc ce serait, selon, je dirais, la dynamique de la famille, parce qu'on sait qu'une des résultantes d'une situation comme celle-là, c'est qu'il n'y a pas que la vie de l'enfant ou du jeune qui est polyhandicapé là, qui est touché. C'est la vie de toute sa famille. Souvent, là, ça crée des difficultés énormes d'un point de vue financier. Il faut abandonner son travail, ça devient une entreprise à temps plein. Est-ce que le centre que vous envisagez en ce moment, est-ce qu'il va être au même endroit où est le centre Philo en ce moment? Je pense que vous êtes tout juste à côté de l'hôpital Sainte-Justine, si je ne me trompe pas.
On n'a pas encore trouvé de lieu, mais non, ce ne serait pas à même le lieu du Centre Philo. Donc, ce serait un autre bâtiment complètement. Ça serait séparé du Centre Philo pour pouvoir desservir la population adulte. Ça serait lié au Centre Philo, mais ça ne serait pas au même endroit physiquement, non. Puis, effectivement, au niveau de l'handicap, c'est vrai qu'un polyhandicapé, c'est une personne, mais quand on compte, c'est l'environnement familial qui est affecté, les parents qui arrêtent de travailler, la fratrie qui est affectée. Donc, ce n'est pas juste une personne qui est polyhandicapée dans une famille. C'est tout le monde qui est comme de l'handicap. Donc, son vœu, c'est vraiment aider ces familles-là, permettre aux parents de pouvoir retourner travailler, permettre à la fratrie de pouvoir avoir cet espace-là aussi qu'ils n'ont pas nécessairement parce que toute la famille est affectée par l'handicap.
Oui, exact. Est-ce que vous avez pu déterminer un coût à ce projet ou une capacité d'accueil? Parce que si vous cherchez à des fonds pour le faire, il faut avoir, entre guillemets, ce qu'on appellerait un plan d'affaires, là?
Oui, le plan d'affaires a été écrit, puis on vise environ une vingtaine d'adultes polyhandicapés, parce que selon les sondages, les grands milieux de vie, c'est beaucoup trop pour les jeunes polyhandicapés. Donc, on vise une vingtaine de personnes d'adultes polyhandicapés. Puis, c'est sûr qu'en termes de budget, on en a discuté, puis on a présenté le projet. On est dans les environs de 6 à 7 millions.
Combien, vous dites?
6 à 7 millions.
6 à 7 millions, d'accord. Pour avoir un milieu de vie... Qui peut accommoder une vingtaine d'adultes. Encore une fois, selon les trois vecteurs dont vous avez parlé, vous parlez d'un hébergement qui peut être permanent, soit une transition, soit un centre de jour. Alors, quand vous dites 20, ben, ils sont répartis entre ces trois modes, si je peux dire.
À peu près, on aurait 10 hébergements de jour, 10 hébergements permanents, 5 transitoires, puis le centre de jour varierait un peu là-dedans.
D'accord. Et l'argent va venir d'où? Là, c'est là que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là. Qu'est-ce que vous allez faire pour aller chercher cet argent?
Mais le Centre Filou, on veut être en partenariat. Donc, on veut une partie des fonds. Nous, le Centre Filou veut sortir une partie des fonds. Mais c'est sûr qu'on cherche un partenariat avec le gouvernement pour pouvoir fournir une autre partie des fonds parce qu'on ne pourra pas fournir les 7 millions nous, à nous-mêmes.
Non,
donc, on veut un partenariat avec le gouvernement pour ça.
Exact. Est-ce que vous avez fait des démarches dans ce sens-là? Où est-ce que vous en êtes rendu?
Oui, c'est sûr qu'on a été rencontrés, on a une bonne écoute. Puis là, c'est sûr qu'avec les élections, il y a eu un grand ralentissement de tout cet aspect-là. Mais comme le gouvernement est resté le même, on se dit qu'avec le retour des travaux, ça devrait reprendre bon train. Puis quoi, ça devrait avancer parce qu'on a quand même une réception puis une ouverture lorsqu'on a présenté le projet.
D'accord. Si je ne me trompe, à moins que le cabinet des ministres ne change radicalement à ce point de vue-là, ce serait le sous-ministre ou le ministre délégué, M. Lionel Carman, je pense.
Exactement, ce serait sous le M3S de M. Carman.
D'accord. Et est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce qu'il s'est directement? Où est-ce que vous en êtes dans votre approche?
On a présenté le projet, on a reçu une réponse favorable. Puis là, on attend juste de pouvoir que le gouvernement se replace pour qu'on puisse continuer à faire avancer le projet pour le pourparler, pour voir comment on va s'organiser là-dedans. Mais la réponse a été généralement positive quand on s'est rencontré.
Bon, mais tant mieux. Est-ce que vous êtes à la recherche de terrain? Commencez à penser à ce à quoi ça pourrait avoir l'air, là, en briques et en mortier, si je peux dire?
On y travaille activement, on cherche les terrains, on est en train de voir les possibilités sur l'île de Montréal. Donc, on est très ouvert à ça, on est en train de regarder qu'est-ce qui fonctionnerait, qu'est-ce qui permettrait d'avoir un endroit qui est participatif, pas sur le bord de l'autoroute perdue, donc un endroit qui serait en plein milieu de la ville parce qu'on veut que ces jeunes-là fassent partie de la société, qu'ils ne soient pas reculés dans un coin. Donc, on cherche un terrain qui permettrait cette vision-là de se concrétiser.
Oui, que ce soit intégré à une vie de quartier, là, que ce soit pas... comme on dit, au bout du champ, là. Ça
serait, exactement, on ne veut pas que ce soit entouré d'un beau champ de blé d'Inde, là. On veut vraiment que ce soit en plein milieu de la ville.
Ben, le champ de blé d'Inde, ça peut toujours faire une activité d'épluchette une fois par année, là, mais le reste, là, pour les autres saisons, là, c'est un peu
c'est
triste.
Ça. On veut qu'ils participent à l'année longue, pas juste
exactement.
Pendant un bref moment.
Tout à fait. Il y a d'autres choses aussi que vous faites au Centre Filou, ce que vous appelez votre laboratoire. De quoi il s'agit? Moi, ça a piqué ma curiosité quand j'ai vu ça chez vous.
Le Filou Lab, dans le fond, c'est un endroit où on veut faire briller le polyhandicap et les services pendant son Centre Filou. Donc, on est en train de développer des projets avec divers partenaires. Le projet primaire qu'on a, l'Habitat Filou est né en partie dans le Filou Lab. Il y a le CSPQ, qu'on cherche à créer un centre d'expertise pour le polyhandicap au Québec. Donc, ça, c'est un des projets qui sort du Filou Lab. On a aussi un projet où on veut vraiment parfaire l'éducation et la formation concernant le polyhandicap. Donc, tous ces éléments-là qui viennent du lab, on est en train de faire mijoter ces bonnes idées-là.
Et quels sont les partenaires avec qui vous travaillez-vous pour que ça puisse rayonner?
Ça varie. Ça va des centres hospitaliers, ça va des structures gouvernementales, des CIUS, ça va aussi avec des structures privées d'entreprise.
Okay.
Donc, ça varie beaucoup dépendamment des besoins des projets.
Ah, d'accord. Mais magnifique. Mais on espère aussi entendre parler de ça de votre côté. Pour ce qui est de la démarche là, pour l'ouverture du centre polyhandicapé adulte, ce serait bien que ça ne soit pas que 200 familles. Là, on parle d'une conversion vers 20, mais on peut comprendre que le besoin, ça va bien au-delà de ça parce que votre population d'enfants polyhandicapés va croître puis va vieillir. Donc, vous allez avoir besoin de plus en plus de place, si je peux dire, pour accueillir les adultes polyhandicapés. Ben, Madame Bamwamba Kabamba, je vous remercie beaucoup. On espère avoir de vos nouvelles quand le projet va commencer à non seulement être financé, là, mais que vous ferez peut-être la première pelletée de terre ou quelque chose comme ça.
Avec plaisir. Merci beaucoup à vous.
Merci.
Au revoir.
man. He's wheeling around in his little chair with a grin. But oh, no, no, don't let him snow you. He's lost after all. So listen.
La Ville de Québec s'est lancée dans une importante entreprise de programme de consultation en formant une commission consultative pour une ville inclusive et le comité d'action des personnes vivant des situations d'handicap, ce que beaucoup de gens dans le milieu connaissent comme étant le CAPVI, a été mandaté pour déléguer une personne auprès de ce conseil qui va contenir comprendre une dizaine de personnes, et c'est M. Simon April qui est responsable en défense de droits des personnes handicapées et de la banque de référence en aide à domicile pour le CAPVI qui va être le délégué auprès de ce conseil. Bonjour M. April.
Bonjour François, ça va bien?
Ça va très bien, merci. Alors, ben d'abord, il faut saluer peut-être la volonté de l'administration de la Ville de Québec d'écouter un peu ce qui se passe sur le terrain.
Oui, puis c'est ça a commencé cette consultation-là en 2015. Oh. Donc ça fait un petit bout là, que la ville là, jette là, la manière de faire. Là,
alors, c'est une initiative qui n'est pas que politique. Donc c'est pas lié aux récentes élections municipales, là. C'est plus rien que ça.
Pas nécessairement, là. Dans le fond, c'est que c'est dans la stratégie de développement, là, la stratégie de développement durable. Que la Ville de Québec a décidé là, de faire une stratégie pour diversité, équité et inclusion dans la Ville de Québec. Donc, avec les nouvelles réalités d'aujourd'hui, si on veut faire de l'inclusion là, quelque chose de fort, donc la Ville de Québec là, a décidé de mettre sur pied là, cette commission-là pour pouvoir avoir un petit peu là, le feedback là, de qu'est-ce qui se passe dans la ville, c'est quoi les solutions à faire, c'est qu'est-ce qui est apporter pour que l'inclusion là, devienne là, une chose primordiale dans la ville.
Oui, parce que c'est vraiment, c'est comme si la ville s'est donnée pour mission de devenir plus verte, mais ça, c'est dans un volet, mais aussi plus inclusive. Et si on regarde la liste des membres de la commission, là, qui seront vos collègues, ce sont des gens qui viennent de différents milieux. Il y a des gens qui viennent de la population autochtone. Il y a des gens qui sont de Centraide, des personnes d'autres milieux, pas juste Québec, mais dans un sens un peu plus large. Monsieur Ben Abdallah de la Mosquée de Québec, Oui. Donc, il y a des gens de différents points de vue qui peuvent se sentir exclus ou ne pas être participants pleinement à la vie de la ville. Et, vous, M. Avril, vous êtes la voix des personnes en situation de handicap un peu là-dedans.
Oui, M. Avril, important. Dans le fond, c'est l'inclusion, c'est les personnes handicapées, mais c'est aussi l'immigration, oui. C'est les personnes en situation d'itinérance, c'est, dans le fond, l'intégration. C'est l'intégration au sens large. Donc, on peut parler aussi du mouvement des femmes.
Oui.
Donc, c'est beaucoup de... c'est un melting pot, excusez-moi l'anglicisme, de toutes ces choses-là, qu'il faut qu'on se rencontre, parce qu'on ne s'est pas encore rencontrés. La commission a été nommée au mois de septembre dernier, donc c'est tout nouveau. Nous, ce qu'on voudrait là-dedans, là, c'est que... Parce que l'inclusion, au niveau de l'immigration, on peut parler d'activité universelle aussi. Donc, ça se peut, des personnes immigrantes, des nouveaux arrivants ici qui sont en situation de handicap. Même chose pour les femmes, même chose pour les personnes de religion musulmane. Donc, nous, ça se situe un petit peu dans tout. Fait que, tu sais, une personne handicapée est inclue dans l'inclusion. Donc,
d'accord.
On peut faire partie de toutes ces catégories-là. Le but là-dedans, c'est de tirer un peu notre épingle du jeu là, concernant l'activité universelle. C'est sûr que les villes ont des plans stratégiques, donc comme le plan d'activité universelle de la Ville de Québec. On a aussi là, la plateforme là, publique là, que les gens vont pouvoir consulter au niveau de la commission pendant qu'on va faire les travaux. Fait que nous, notre mandat là-dedans, là, c'est de formuler les recommandations là, pour la ville, donc pour prendre des nouvelles orientations pour le vivre ensemble.
D'accord.
Et aussi là, tout ce qui est diversité, équité, inclusion. Là,
est-ce que
au niveau de l'emploi, ça peut être au niveau...
Oui, on va revenir à ces sujets-là, M. April.
Oui.
Ce que vous me dites, c'est donc les gens, les citoyens vont pouvoir déposer ou interpeller la commission pour suggérer des sujets de discussion ou souligner des choses qui se passent bien ou moins bien dans la ville?
Exactement. Donc, il faut avoir des orientations à ce niveau-là. Là, parce que c'est une commission, une commission avec des citoyens.
Oui.
Tout à l'heure, je vous dis là, que c'était le CAVI qui m'avait délégué, mais c'est plutôt l'inverse.
Ah, d'accord.
C'est moi qui ai Simon April, dans le fond, qui a postulé pour.
Comme ah, citoyen. D'accord. Ben, bravo.
Ben, mais dans le fond, en étant là, à l'organisme CAVI, on touche des dossiers souvent là, en activité. Donc, c'est sûrement ce que j'ai joué dans
oui, je comprends. Ah, ben, je m'excuse, M. April. Je ne veux pas vous enlever votre mérite parce que c'est bien que vous ayez pris la peine de faire la démarche puis d'aller de l'avant en disant, ben, moi, je veux y participer d'une façon active. Et vous allez vous rencontrer régulièrement, la commission, est-ce que vous avez un calendrier d'activités pour structurer votre démarche?
Mais pour l'instant, on parle de 4 rencontres par année.
D'accord.
Donc, c'est pas statué parce qu'on s'est pas encore rencontrés, on s'est pas encore réunis. Tout ce qu'on a été, c'est on a été nommés. Donc là, par la suite, là, on va voir c'est quoi la stratégie ou l'orientation là, qui va se faire avec cette commission-là. Nous, c'est sûr que quand je suis sur mon chapeau de défenseur de droit à CADI,
oui.
On participe déjà avec la ville à la TCAU, qui est la salle de consultation activité universelle. On est avec le RTC, le STAC pour les transports adaptés. Donc, c'est tout là une question de mobilité. Nous, l'enjeu pour les personnes handicapées, c'est une question de mobilité. Donc, sortir
exact.
Chez eux, prendre le transport en commun, aller au restaurant qu'on veut, aller travailler, donc participer à la vie active. Puis, c'est un peu l'enjeu de toutes ces personnes-là qui sont dans la commission avec moi, qui vont pouvoir là mettre sur la table tout leur enjeu. Donc, après ça, là, ça va être de trouver des solutions, des orientations, puis formuler là-dedans des recommandations là, pour que
auprès de la ville
de Québec. Là, exactement.
Est-ce qu'il y a comme un échéancier, comme quoi vous devez déposer un rapport après un an ou deux ou trois, ou vous êtes un comité, je dirais, un conseil qui est permanent auprès de la ville, que la commission va exister et va donc émettre des recommandations au fil du temps, ou est-ce que c'est pour une durée X, puis que vous faites un rapport, puis après ça, c'est fini? Comment ça fonctionne?
Je pourrais pas vous dire spécifiquement parce qu'on n'a pas encore eu cette information-là, mais d'accord, j'ose espérer que ce n'est pas pour un an, parce que l'orientation de la ville de devenir un peu plus inclusive, je pense pas que c'est une orientation qui se base sur les travaux de un an.
Tout à fait.
Donc, ça devrait là durer dans le temps. Est-ce que les mandats vont changer? Est-ce que les gens qui vont avoir différents mandats vont changer? Ça, je pourrais pas vous répondre. On n'a pas encore la formation à ce niveau-là, mais je pense que tout dépendant là, des demandes qu'on aura et du pouvoir décisionnel qu'on aura aussi au niveau de l'exécutif, parce qu'il y a des gens là, des élus au niveau de l'exécutif de la Ville de Québec. Là,
qui siègent avec vous à la commission. Donc, il y a tout
exactement
de suite une sorte de feedback auprès des décideurs.
Oui. Bien, dans le fond, les décideurs, là, on a ici là, Mme Véronique Dallaire là, et M. Claude Lavoie, qui, eux, sont des élus de la Ville de Québec, respectivement dans leur... dans leur parti politique, on va dire ça comme ça.
Oui.
Puis aussi, on a un monsieur Stéphane Picard, là, qui est chef au niveau du Conseil des Nations, du Rwandap. Donc, ça va être vraiment là une belle brochette là, de personnes là, qui sont dans des secteurs totalement différents, mais qu'au bout de la ligne, on se rejoint tous pour l'inclusion.
Exact. D'un point de vue de la situation propre aux personnes en situation d'handicap, je suis curieux de vous poser des questions sur différents enjeux qui sont communs à nous tous, si je peux dire.
Oui.
Dans ce sens-là, comment ça se passe? Comment vous évaluez en ce moment la situation, par exemple, du transport? Vous parliez tout à l'heure de l'enjeu de la mobilité, le
oui,
transport adapté ou l'accessibilité aux autobus. Je dirais régulier de la ville, ainsi de suite. Est-ce que vous envisagez Québec comme étant en avant ou en arrière de la parade?
Je ne sais pas si on est en avant ou en arrière de la parade. Je pense qu'on est juste dans la parade.
Okay.
Au niveau du RTC régulier, je pense que l'offre de service va être bonifiée et augmentée là, dans les prochaines années. Le nombre d'endroits d'arrêt accessible a augmenté continuellement dans les dernières années et va continuer de le faire. Avec l'arrivée du tramway, ça devrait pas là, diminuer dans ce sens-là. Ça devrait plutôt augmenter. On a travaillé aussi au niveau là, du tramway pour l'activité universelle. Le problème pour la mobilité à Québec, c'est plutôt, puis c'est sûrement la même chose pour Montréal et les autres villes, c'est de se rendre à l'arrêt d'autobus. Donc,
exact,
c'est la mobilité des trottoirs, de la voie publique. Donc, à Québec, on parle aussi dans ce sens-ci là, de rues partagées. Donc,
oui,
les rues partagées, il y a un enjeu au niveau des personnes handicapées parce que je vous donnerai l'exemple, là, dans une rue qui a des autos, il y a des vélos électriques, des trottinettes électriques, des fauteuils roulants motorisés, des fauteuils roulants manuels, des skateboards, etc. Donc, où est notre place là-dedans? C'est quoi la sécurité?
Exact.
Donc, c'est tous des enjeux là qui vont être à discuter à ce niveau-là. Au Calvion, on est déjà beaucoup impliqué avec la ville, puis des élus, là, et même des architectes qu'on a fait là, plusieurs. On est allé dans les rues se promener pour faire des recommandations. Donc, à ce niveau-là, on le fait déjà pour l'activité universelle avec la ville, qui est un très bon partenaire. Surtout depuis le retour de la pandémie, là, on voit une différence là, au niveau là, de l'écoute de la ville.
Il y a une ouverture.
Oui, ouais, il y a une très grande ouverture, mais moi, je suis toujours méfiant là-dedans. On écoute, mais maintenant,
oui,
il faut voir des résultats.
Oui, tout le monde est pour la vertu, ça, c'est certain.
Exactement.
Qu'il n'y a personne qui va vous dire non, c'est pas une bonne idée. Tout le monde va vous dire oui, ça serait super, puis je comprends votre problématique, mais après ça, est-ce que le problème est attaqué de front, puis est-ce qu'on le règle? Côté du logement adapté à Québec, comment ça se passe?
Côté du logement adapté à Québec, ben nous, en tout cas au Calvion, on reçoit des demandes. On sait que les listes d'attente là, au niveau de l'OMHQ sont quand même assez, je pense, volumineuses. Mais il y a un groupe qui vient de s'implanter là, qui va ouvrir ses portes là, au mois de novembre, qui s'appelle le groupe Audrey.
Ah.
Donc là, il y a beaucoup de personnes handicapées là, qui avec des soins. Là, mais des fois, ça peut aller des soins légers à des soins un petit peu plus particuliers, donc on parle de lever coucher, là, des soins 24 heures. Là. À ce niveau-là, ça va aider là, pour la recherche de logements adaptés. Mais il y a encore du travail à faire beaucoup au niveau, moi, je dirais, à l'obtention des permis. Ça va être un enjeu.
Okay.
On va sûrement discuter au niveau de la commission. Parce que les architectes ont toujours des petits des petits trucs pour pouvoir contourner l'activité.
quand il y a un trou, on le trouve. Hein?
Exactement. Donc, ben, à ce niveau-là, ça va être des enjeux là, qu'on va discuter au niveau de la commission. Là.
Ben, moi, je suis très heureux d'entendre qu'une personne impliquée comme vous va avoir voix au chapitre dans un cadre large d'inclusion à Québec. Je vous remercie beaucoup, M. April, de votre implication. Puis on va suivre ça de près.
Merci beaucoup.
Merci. Après la pause, on vous revient avec Camille, la revue de presse. On a fait le tour du monde une fois de plus.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour en compagnie de ma collègue Camille Cusset. Bonjour Camille, comment ça va?
Bonjour François, ça va très bien, merci.
Ça va bien, vous avez encore une fois fait vos valises, fait le tour du monde. Je regarde là tous les sujets avec lesquels vous nous revenez.
Mm-hmm. Oui, moi je suis allé loin là cette fois-ci.
Voilà, vous n'êtes pas souvent à la maison. Une façon de parler. Vous faites tout ça par le clavier, on le sait bien. D'abord, on va parler de quelque chose d'assez merveilleux qui se passe en Argentine.
Oui, tout à fait. En fait, je suis tombée sur un beau reportage qui a été diffusé sur France 24, donc qui est un média français. Il a été diffusé le 11 octobre et qui parle de la tangothérapie.
Oh.
Oui,
donc... quand on dit Argentine, on pense tango, hein?
Immédiatement, j'imagine qu'on pense aussi bonne nourriture, que je connais mal, j'avoue.
Ah, mais faut aimer le bœuf.
Ah, ok, bon à savoir. Ben, c'est le cas, fait que ça irait. Mais on pense, oui, vraiment à tango. Et là, c'était vraiment un reportage vidéo sur la tangothérapie, donc qui est vraiment reconnue et utilisée là-bas. Cette danse qui est donc originaire du pays, elle permet de briser la solitude, de faire travailler la motricité et notamment donc des personnes en situation de handicap physique ou mental, mais aussi des personnes isolées, des personnes âgées isolées. Oui. Donc là-bas, c'est utilisé dans ce sens-là. On appelle ça la tangothérapie. Et dans ce reportage, on suit Christiane Daniel Rosa, qui est un Argentin de 38 ans, vivant avec une déficience intellectuelle. Il suit les cours de tango dans le cadre de la tangothérapie. Et donc, on le voit donc se déplacer, danser, puis complètement oublier finalement sa condition.
Oublier les tracas du quotidien. Parce que
exactement.
C'est magnifique parce qu'à la fois, il y a l'aspect évidemment physique, du déplacement, mais
oui.
Il y a aussi tout l'aspect social, comme vous dites, l'accomplissement, la réalisation de soi,
voilà.
Le fait de faire quelque chose que tous les Argentins ou Argentines font,
oui.
Ou presque, on peut le penser.
Un cadre de thérapie, excusez-moi de vous couper, mais ça permet de développer aussi comment dirais-je, par exemple, au niveau de la mobilité,
oui.
Ça aide beaucoup, l'équilibre.
Oui, bah, oui. On sait que chez des personnes qui avancent en âge, le fait de pratiquer la danse, je dirais, stimule des rapports nerveux entre l'audition, le mouvement, la mémoire du corps, tout ça. Mais moi, ce qui m'a surtout frappé dans ce reportage-là, c'est que et ce n'est pas qu'un centre à Buenos Aires là, qui fait de la tangothérapie. C'est universel.
Exactement.
Tout le monde en Argentine a accès à ce genre de thérapie. C'est
exactement,
ça qui est beau.
Exactement, tout à fait. Puis d'ailleurs, c'est tellement répandu qu'il y a une académie, carrément, une académie argentine de tangothérapie. Donc, elle est dans le nord du pays, pas partout. Mais là-bas, ils forment toutes les personnes, tous les Argentins et toutes les Argentines qui veulent devenir des tangothérapeutes. Donc, c'est assez... par exemple, il y avait le témoignage d'une infirmière qui disait qu'elle croit non seulement au bienfait du tango, pour le bien-être personnel et que ça peut apporter donc beaucoup de choses au niveau thérapeutique.
Oui.
C'était notamment, elle donnait un exemple d'un petit garçon de 8 ans, donc c'est ouvert à tout le monde, hein. C'est vraiment
oui,
de tous les âges, on peut aller danser avec Pépé, avec Mémé, on se fait plaisir, c'est très ouvert. Et cet enfant de 8 ans donc n'arrivait pas à compter en raison d'une de ses conditions, et grâce à ça, il a appris à compter au moins jusqu'à 8.
Ah, compter les pas.
Exactement, grâce aux pas.
C'est ça,
donc c'est
bien,
vraiment
ça.
Pas mal.
Ah, ben ça, c'est... En tout cas, j'ai trouvé ça très sympathique. Ça, c'est sur France 24.
Tout à fait.
On un peu toujours dans la même je dirais, la même idée, latine, mais plus au nord, on s'en va à Cuba.
On s'en va à Cuba. Au Cuba, donc, a fait un saut, un grand saut, et a approuvé le mariage gay. Donc, les Cubains et les Cubaines ont approuvé à plus de 66%, par référendum, un nouveau code de la famille qui légalise donc le mariage des couples de même sexe, la gestation pour autrui et aussi la filiation élargie.
Oui. Il y a souvent des familles où il y a trois générations à la maison.
Exactement.
Et c'est dans le cadre d'une réforme du droit de la famille.
Oui.
Qui est plus large aussi, parce que je pense que ça, c'est comme vous dites, ça renforce ou ça reconnaît
le droit
le mariage,
au mariage,
dit,
oui.
Mais aussi l'adoption homoparentale, les droits des enfants, des personnes en situation de handicap. Là, c'est vraiment, ça met Cuba à l'avant-scène.
Exactement.
En Amérique latine, dans le cadre des droits pour des personnes souvent exclues ou marginalisées.
Tout à fait. Ben, c'est exactement ça. Puis donc, au niveau des personnes qui vivent, des personnes marginalisées, disons ça simplement comme ça, il renforce le droit des enfants, des personnes âgées et aussi, oui, des personnes en situation de handicap. Alors, ce qui est intéressant, donc ça s'est passé le 25 septembre dernier. Ça a été largement soutenu par le gouvernement communiste. Mmh. Et le vote en faveur du oui, donc, a fait l'objet d'une grande campagne, autant dans la rue qu'à la télévision. Donc, ça a été vraiment poussé de l'avant, autant par le gouvernement, mais aussi par les médias. Donc, c'est vraiment un gros pas pour Cuba.
Et c'est intéressant de voir le déroulement, l'évolution de l'histoire, parce que ce qui était le code de la famille précédent, qui commençait à être vraiment, qui était en fait contraignant, là, avec beaucoup de restrictions et d'exclusions, avait été mis de l'avant au début du régime communiste, dans les années 70.
Exactement.
Et là, finalement, c'est comme une sorte d'adaptation du régime à la vie d'aujourd'hui et à des réalités qui avaient été dans le passé.
Laissées de côté, bah oui, tout à fait. Hein. C'était, on peut vraiment parler de discrimination.
Exact.
Avant, dans l'ancien code.
Qui avait été systématisé, tout à fait.
Exactement. Donc oui, c'est une façon de faire amende honorable. Et puis le texte, c'est l'un des textes qui est maintenant les plus progressistes en Amérique latine. Donc si on considère Cuba comme faisant partie de l'Amérique latine.
Oui.
Donc c'est ça, avec un pays de 11,2 millions d'habitants et d'habitantes. C'est un gros pas en avant, malgré une crise économique quand même qui frappe
beaucoup.
Oui,
parce que c'est pas super là-bas. On va rester en Amérique latine, puis là, on s'en va en Amazonie.
Oui.
Hein, rencontrer un aventurier et son compagnon.
Oui, alors ça, c'est une aventure, vraiment. J'ai adoré lire cette histoire parce que même moi, ça me donne envie. En fait, l'aventurier Arnaud Chasséry, donc lui, il parcourt le globe en quête de découvertes et de sensations extrêmes. Ça, c'est pour vous mettre un petit peu en contexte. Mm-hmm. Thomas, âgé de 27 ans, lui, il est atteint d'une maladie rare et il a réalisé son rêve donc d'entrer en immersion dans une tribu tanzanienne, donc en Tanzanie.
Ah, c'est en Tanzanie. Ah, je pensais que c'était en Amazonie.
Ben,
ah, c'est mon erreur, voilà.
Non, c'est bien correct parce que en fait, le projet, donc qui est Handicap Sûr, vise après l'Amazonie. Donc c'est peut-être ça l'amalgame qui a eu.
Ah, voilà, c'est
après,
moi qui lis en diagonale, c'est ma faute, voilà. Alors, on est en Tanzanie, donc on est en Afrique de l'Est.
Exactement, okay. Oui. Et donc là, c'est Arnaud Chasséry, donc qui a mené ce programme grâce au programme Handicap Sûr.
Handicap, c'est H-A-N-D-I.
Voilà.
Apostrophe cap comme cap sur l'aventure.
Voilà, exactement. Donc en fait, c'est vraiment pour pousser hors des sentiers battus. Et Thomas, donc, il est parti en Tanzanie pour faire cette expédition. Donc il a pu vraiment faire une immersion au cœur de la jungle. C'était une aventure salvatrice pour lui, donc qui est malvoyant et malentendant.
Oh.
Donc oui, et dans l'article, ils le décrivent comme un jeune homme pas très costaud, mais qui a pu, dépasser ça, et puis qui s'est trouvé en fait, qui s'est découvert, donc c'est assez intéressant. Tout le monde peut participer à ce programme handicap, c'est ce que j'ai trouvé vraiment intéressant. Il suffit juste de postuler sur le site de l'association Allopias. Le seul impératif, bien évidemment, c'est d'être en situation de handicap, et d'être surmotivé, parce que c'est demandant.
C'est sûr, parce qu'on sort vraiment, on s'en va dans des milieux qui sont vraiment pas du tout adaptés.
Mais non.
Il faut comprendre. Et qui même adaptés sont, entre guillemets, hostiles à la vie de gens qui vivent dans des sociétés développées d'Occident. Là,
exactement.
On parle pas de
on risque de croiser un guépard à chaque coin
de métro. Là. on est dans la jungle, c'est du camping de première classe. Là. Alors, il faut faire attention, c'est difficile. Et ça demande beaucoup d'avoir un esprit très ouvert parce qu'on rencontre toutes sortes de nouvelles cultures.
Voilà, exactement.
Il faut accueillir ces gens-là autant que nous les accueillons. Alors, c'est sur quel site, vous dites?
Ça, c'est sur le site Allopias, donc pour s'inscrire et pour voir le reportage, vous pouvez aller sur handicap.fr, donc là, sans le apostrophe.
Bon, parfait. Ben oui, parce que peut-être qu'il y a un ou une aventurière parmi nous qui va prendre l'occasion aux cheveux, comme on dit.
Oui.
Mais aussi, ben, c'est une belle histoire. Je voudrais parler également d'un article que notre collègue Philippe Lapointe nous a suggéré. Article qui vient du Monde diplomatique, édition du début d'octobre, et qui y fait référence, en fait, à une commission des défenses des droits en France qui a déterminé qu'en 2022, pour une cinquième année d'affilée, le handicap est la principale raison, le principal motif d'exclusion.
Mm-hmm.
Et en lisant les chiffres de cet article-là, je me disais, c'est même deux pays différents, Canada, Québec, France,
même réalité.
C'est les mêmes choses, c'est terrible. En 2022, la France compte près de 12 millions de personnes en situation de handicap, c'est 17,8% de la population, c'est très semblable à ce qu'on vit ici, là, selon les définitions, et rien en dehors de ces discriminations. Tout est pareil. Les personnes handicapées sont surreprésentées parmi les gens qui n'ont pas de diplôme, 29 contre 13. Deux fois plus de chômage chez les personnes en situation de handicap, 15 contre 8 de chômage dans la population en général. Ils ont 3 sur 10 vivent sous le seuil de la pauvreté, deux fois plus nombreux ou nombreuses à être isolés, à vivre seuls. Alors, selon le rapport annuel du Défenseur des droits publics, le handicap constituait le premier motif de discrimination pour la cinquième année d'affilée.
Oui, ça, c'était vraiment choquant.
C'est dur. Mais cet article-là du Monde diplomatique, je vous le recommande parce qu'il est évidemment... Le Monde diplomatique, c'est toujours super bien écrit. Et en plus, c'est vraiment... Ça dresse un portrait très, très juste et très éclairant de la situation du handicap en France. Et on s'aperçoit combien... cette réalité-là est assez semblable à la nôtre. Là. L'institutionnalisation, la médicalisation, c'est très semblable. Alors,
c'est ça, puis
ça
les dilemmes... excusez-moi de...
Allez-y!
Les dilemmes aussi du milieu associatif.
Oui.
On se demande, est-ce qu'il faut continuer avec les mêmes structures actuelles, toute la discrimination structurelle, en fait? Est-ce qu'on change tout? Comment tout changer? Comment financer? C'est très bien expliqué, oui, dans cet article.
De savoir, faut-il tout foutre en l'air et recommencer dans un mode beaucoup plus soin à la maison?
Vous le dites bien mieux.
Hein?
Vous le dites bien mieux que moi.
Ben, en fait, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Puis on voit aussi l'éclatement des structures, des associations, des groupes communautaires. Et on s'aperçoit que le combat des personnes en situation de handicap, là, c'est vraiment universel. On collerait l'adresse ici sur l'article, là, puis on aurait l'impression de dire la même chose. Tout à fait. Voilà. Ah, ben enfin, c'est un très bel article. Merci Philippe de nous l'avoir transmis. Et on va passer maintenant aux choses plus légères et plus agréables pour l'esprit. On va parler culture dans un moment.
Laissez l'océan
De retour avec ma collègue Camille Cusset. On va faire maintenant des... Plutôt, on défait les valises, hein, on pose des valises à terre.
Ouais. On rentre au Québec.
On revient à Montréal, on revient au Québec. Alors, qu'est-ce qui se passe par chez nous?
Alors, pour vous, j'ai la Fondation Douglas, donc qui a lancé l'édition 2022 du mouvement Bâtissons l'espoir, qui est donc une initiative de visibilité provinciale pour soutenir la recherche de pointe et les soins aux patients de l'Institut universitaire en santé mentale, donc l'Institut Douglas.
Qui est à Verdun, si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait.
Donc, l'article dont j'ai issu cette information-là s'appelle « Quand parler de maladie mentale ne suffit pas ». Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'Institut Douglas, mais c'est centré, en fait, sur le témoignage de Magali qui souffre d'un trouble de la personnalité limite. Et cette campagne, donc la campagne « Bâtissons l'espoir », encourage la population à agir aux enjeux de la maladie mentale en faisant un don à l'organisme, en fait, ou alors en partageant tous les contenus disponibles sur leur plateforme sociale durant le mois d'octobre.
Moi, ce qui me frappe, c'est que et c'est comme un drôle d'effet qui n'était peut-être pas prévu. La pandémie et le cloisonnement et tout ce que ça nous a fait collectivement vivre... Il me semble qu'on parle beaucoup plus de santé mentale maintenant que l'on en parlait avant la pandémie.
C'est flagrant.
Pourtant, on parle d'un virus qui s'attaque au corps, mais toutes les conséquences sur la santé mentale que ça a eues fait que maintenant, c'est un enjeu important, d'autant plus que pendant la pandémie, les services pour la santé mentale ont été... Mettons, négligé, là, ça n'a pas aidé beaucoup. Il y avait plus de besoins puis moins de d'offres de soutien. Et là, maintenant, on en parle beaucoup. Et ça peut paraître curieux que je dise ça comme ça, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ça a obligé tout le monde à mettre la santé mentale à l'avant-scène puis d'en parler, puis de se sentir à l'aise de parler de ce qui nous arrive à chacun de nous. Mm-hmm. Puis on espère évidemment que d'un point de vue institutionnel, on puisse aussi, gouvernemental et soutien de proximité, on puisse aider les gens qui en ont besoin. Mais ça me semble être une conséquence qu'on n'avait pas envisagée au début de la pandémie, il y a 3 ans.
Puis on peut le comprendre, hein, parce que c'était quand même un gros bout à gérer pour le gouvernement, ce qui s'est passé. Personne ne pouvait prévoir l'ampleur de la chose. Puis, les dommages collatéraux, ça a été la santé mentale.
Tout à fait, tout à fait.
Puis, je suis bien d'accord avec vous.
On parle... Et c'est très bien qu'on en parle. Il y a des campagnes de sensibilisation qui ont lieu, ainsi de suite. Alors, ce que fait l'hôpital, la Fondation de Douglas, de l'Institut universitaire de santé mentale Douglas, ben ça, c'est très bien. Ça va dans ce sens-là.
Puis elle est supportée par les institutions financières, par exemple le mouvement Desjardins. Il se joint à cette campagne-là, puis il remettra un montant équivalent pour tous les dons qui seront effectués à la Fondation d'ici le 31 octobre. Alors ça, je ne l'ai pas dit, mais le mouvement, donc Bâtissons l'espoir, il se tiendra du 10 au 31 octobre 2022.
Bon, ben c'est maintenant.
Hein? Oui, c'est maintenant.
Tout à fait, exact.
Et il est possible de se joindre à la campagne en faisant un don sur le site web de la Fondation Douglas. Hein, maintenant, c'est comme ça que ça se passe.
Oui.
Les dons, c'est en ligne. Ou alors en part... Oui.
C'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. Là.
Mais oui.
Moi, j'ai mis une lettre à la poste avec un timbre la semaine dernière et pour moi, c'est tout un événement.
Ah ben oui!
Voilà. Dans le journal des affaires, que l'on n'associe peut-être pas toujours à des situations d'handicap, il y avait un reportage.
Oui, un très beau reportage d'ailleurs. Comment démanteler les barrières de la langue, un signe à la fois. Donc en fait, Cynthia Benoît, c'est la PDG, mais... Respectons le terme, la directrice générale et aussi présidente d'une entreprise qui s'appelle Services Linguistiques CB. Donc, qu'est-ce que fait cette entreprise? En fait, elle offre des services, des cours de langue des signes québécoise, donc la LSQ pour les connaisseurs, un système aussi d'évaluation des compétences en langue québécoise, en plus un service de recherche et de développement et de consultation qui comprennent des études de faisabilité. Et tout ça, c'est à l'intention des entreprises donc qui auraient le désir d'inclure davantage de personnes sourdes ou malentendantes.
Dans leur emploi, là.
Oui.
J'ai lu l'article. On ne disait pas si Mme Benoît était elle-même sourde ou malentendante, mais en fait... c'est pas vraiment important parce qu'on va arrêter de caractériser les gens ou les décrire par leur handicap. On va simplement les décrire par les bonnes choses qu'ils font
dans
la vie.
Très bonne initiative. Hein?
Voilà. mais on peut penser que service linguistique, CB, c'est ses initiales à elle. Alors, c'est tout à fait, c'est son initiative.
Mm-hmm.
Et oui, ça va permettre d'exploiter et de valoriser les talents des gens sourds ou malentendants parce que souvent, les personnes sourdes ou malentendantes vont se retrouver coincées dans des emplois qui vraiment sous-utilisent leur capacité. Là. Ils sont vraiment
bloqués. C'est exactement ça. Et moi, c'est ce qui m'a assez interpellée, en fait, dans ce reportage, parce qu'elle expliquait que souvent, ce sont des personnes donc surqualifiées et elles se retrouvent à occuper des postes qui ne sont pas du tout compatibles avec leurs compétences ou avec leurs talents ou leurs ambitions. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus du bien-être aussi au travail. Donc, il faut aussi inclure tout le monde, en fait, dans cette initiative-là et donc s'intéresser à ce que les gens veulent faire et veulent réaliser sur leur lieu de travail. Tout le monde. Et donc, on parlait de ça et elle expliquait que elle rencontre. Donc tout ça, c'est une entrevue, hein, pour vous préciser. En fait, c'est une entrevue avec Cynthia Benoît qui donne son point de vue. Et elle dit que les personnes donc rencontrent de nombreuses barrières sur le marché du travail, notamment en matière de promotion et d'occasion. Donc c'est de l'injustice, en fait, quand on y pense bien.
Ben, c'est une autre exclusion, là. C'est pas autre chose. Mm-hmm. Et donc, son entreprise qui s'adresse à des entrepreneurs, s'adresse à des employeurs, voilà, pour permettre à faciliter l'intégration dans le milieu du travail de personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Et ça peut être, on parle de personnes malentendantes ou sourdes aveugles ou oralistes ou qui ont des pertes de l'ouïe, ça correspond à presque 10% de la population.
Exactement.
Alors, c'est un bassin de ressources et de compétences là, qui est sous-utilisé. Alors, comme vous le dites, l'entreprise de Mme Benoît offre des cours de langue des signes.
Exactement.
Hein, ça, c'est la première chose. Ça, c'est vraiment basique. Et des systèmes d'évaluation de compétences aussi.
Exactement.
Parce que si quelqu'un dit oui, je m'y connais, puis la personne dans l'entreprise qui l'interview ne connaît pas la langue des signes, comment savoir si cette personne-là s'y connaît ou non?
Hein? Exactement.
Voilà. Ça peut paraître bête, mais il faut être capable d'évaluer les compétences d'une personne, surtout rendu au moment de l'accueil, ça va faire
toute la différence.
Voilà. Des services de recherche, de développement et de consultation.
Ça, c'est très intéressant.
Ça, c'est important, qui va permettre de faire des études de faisabilité.
Mm-hmm. Il donne un exemple. Par exemple, ils ont travaillé en collaboration avec Radio-Canada sur un projet en lien avec les contenus en langue des signes. Donc, c'est vraiment, si ça va même à ce niveau-là, je trouve ça très intéressant aussi.
Ben, et donc, c'est au-delà de l'emploi, parce que là, on parle vraiment de l'accessibilité universelle et des services de traduction. Alors, ça aussi, c'est important au moment qu'il y a des communications anglais, français, LSQ ou langue des signes américaine, parce que toutes les langues des signes ne sont pas les mêmes. Ça, c'est un autre mythe, là. La langue des signes ici, puis quelqu'un qui utilise la langue des signes britannique, là, c'est pas les mêmes.
C'est, okay.
C'est pas pareil.
J'apprends quelque
chose, il y a des distinctions, là. Je dirais qu'il n'y a pas qu'une langue des signes dans le monde. Il y en a plusieurs qui reflètent des différences culturelles, ainsi de suite. Alors, tout ça, donc, on parlait de Mme Cynthia Benoît et de son entreprise. Service
linguistique CB.
Voilà.
Oui, tout à fait.
Exact. Il y a des gens doués au Québec, des jeunes enfants, des jeunes adultes qui sont doués. Malheureusement, ils décrochent.
Et oui. Entre 18%, donc ça, c'est Science Presse qui nous apprend ça, entre 18% et 25% des élèves doués ne parviennent pas à obtenir de diplôme d'études secondaires. Donc, il y a un groupe de chercheurs à Montréal qui se propose de donner des solutions, notamment l'utilisation de l'outil Banco pour favoriser la collaboration et la facilité pour échanger les informations en fait concernant les besoins des enfants doués. Parce que tout est là en fait, c'est que leurs besoins ne sont pas identifiés clairement, que ce soit dans la famille, à l'école ou dans l'environnement en fait de l'enfant. Et ça pousse malheureusement au décrochage scolaire parce que le QI c'est souvent accompagné de certains problèmes, de troubles de l'apprentissage et de la dyslexie.
Oui, et c'est terrible parce que le taux de décrochage scolaire chez les enfants doués, c'est trois fois plus que que la moyenne de la population générale.
C'est
vraiment un gaspillage humain, qui est un gaspillage.
De matière
grise. Je
ne
veux pas avoir d'avoir un point de vue d'un économiste utilitaire, mais c'est terrible, c'est malheureux qu'on se retrouve dans une telle dans une telle situation. Je dirais qu'en général dans la société il y a un certain discours où on valorise la bêtise, quand les gens sont intellectuels, scientifiques, où ont un discours qui est articulé, on les escamote parce que c'est plus populaire parfois d'être
populaire, simpliste. Justement.
Oui, voilà, mais là je veux pas rentrer là-dedans, il y a des gens qui vont me taper dessus. Pour terminer, hein, la pièce Le Fils qui est au Rideau Vert. On annonce trois supplémentaires. On en parle parce que c'est accessible.
Exactement, oui, c'est accessible. Et donc, vous avez le 3 et le 4 novembre, donc les supplémentaires à 19h30, ainsi que le 5 novembre à 16h30. Donc, si vous ne l'avez pas vu, précipitez-vous, les billets sont en vente en ligne.
Parfait. Et là-dedans, il y a Guillaume... Il y a Vincent Guillaume Autiste, hein? Tout le monde se rappellera qui faisait le pas de Bissonnette dans le district 31. On a l'air de le revoir sur scène. Merci, Mathieu Tessier. Merci, Claire Guérin à la recherche. Et Camille Cusset, agente de voyage. Voilà. À la semaine prochaine.